Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
C'est le jour J ce soir, grande finale de l'Eurovision sur France 2. On va vous emmener dans les coulisses de ce concours avec la chef de la délégation française à l'Eurovision, celle qui coach nos Bretons à Turin. Mais d'abord, une chanteuse encore plus internationale que l'Eurovision. Elle, son parcours, c'est carrément de la Mondovision.
Chanteuse, star de télé, elle a sillonné la planète entière. Et si elle est très populaire en France, elle l'est encore plus dans son pays d'origine.
Yogyakarta, en Indonésie. À l'aéroport, les fans ne se tiennent plus d'impatience. Leur idole revient au pays.
Je viens de Berlin et j'ai repoussé tous mes examens juste pour venir la voir.
C'était un goût pour tous.
Un engouement qui ne se limite pas qu'à ses fans. Angoon, c'est un peu la Madonna indonésienne.
Bonjour Madonna.
Je suis plus jeune quand même.
C'est donc vous qui vous cachiez dans ce déguisement d'Angoon depuis toutes ces années. Ça va loin, ma Singer. Angoon, merci d'être avec nous au lendemain de la grande finale de Mask Singer. C'était hier soir sur TF1.
Oui. Alors Angoon, Al Capone, c'est votre prochaine aventure. Une comédie musicale avec Roberto Alagna à découvrir sur scène en 2023. On va en reparler, bien sûr. Mais aussi retracer votre incroyable carrière qui a commencé dès votre enfance en Indonésie, donc, avec cette chanson.
Ah, on revient pas qu'on ait retrouvé ça. Vous nous confirmez que c'est bien vous, Angoon, cette petite voix.
Ça, exactement.
Vous avez quel âge, là?
Là, j'avais 12 ans.
12 ans. Et vous étiez déjà une méga star, hein, quand même, parce que j'ai lu qu'à 12 ans, vous avez vendu 9 millions d'albums en Indonésie.
Oui, mais c'est peut-être la version piratée. Je sais pas, parce qu'en Indonésie, le piratage, je crois que c'était nous qui l'avons inventé.
Vous venez de passer plusieurs semaines, Angoon, à essayer de démêler le vrai du faux dans Mask Singer. Oui. Eh bien, vous savez quoi? On n'avait pas fini avec ça. C'est reparti pour un tour.
Archive ou archifaux ?
On va affirmer des choses sur vous à la télé, Angoon. Si vous pensez que c'est vrai, vous nous dites archive. Sinon, vous nous dites archifaux.
Très bien. Alors, un jour, alors que vous étiez coach pour la version indonésienne de The Voice, vous vous êtes retrouvé face à votre sosie vocale. Archive ou archifaux ?
Je crois qu'archive, oui. Oui, oui.
Avouez qu'il y avait quand même une sacrée ressemblance entre votre voix et celle de cette candidate.
Ouais, on est au-delà de la petite ressemblance,
c'est
quelque chose.
Oui, c'est vrai, l'imitation.
Angoon, vous avez donc été coach dans The Voice en Indonésie, mais aussi juré dans X Factor, dans la version indonésienne d'Incroyable Talent, et même une déclinaison pour le continent asiatique. Juste histoire de nous faire rêver, Angoon, vous nous rappelez l'audience de ce Asia Got Talent diffusé dans 19 pays?
Ah, je ne sais pas, quelques centaines de millions.
C'est ça, quelques centaines, on n'est plus à un ou deux près.
Oui, un peu plus, chaque semaine.
Moi, j'ai eu 125 millions de téléspectateurs toutes les semaines pour ce concours.
Oui, c'est vrai.
Il y a eu très tôt chez vous cette idée de partir à la conquête du monde entier, Angoon, alors que vous étiez déjà une superstar en Asie. Vous aviez 20 ans, c'est ça, quand vous décidez de quitter le pays?
Oui, presque 21 ans.
Vous vouliez pas rester dans votre zone de confort alors que vous aviez déjà succès auprès d'un public beaucoup plus large finalement que celui que vous pouviez espérer d'ailleurs en France ou d'autres pays européens?
Oui, c'est vrai, mais mon père, qui était écrivain, m'a toujours dit que le danger pour un artiste, c'est à partir du moment où on est devenu confortable et voilà, où on se pose plus de questions. Et pour lui, ça veut dire que c'est un peu la morte lente et donc il n'a pas envie de ça pour moi. Donc il me provoquait pour que je puisse partir.
Allez, autre archive ou archifaux?
Alors en France, vous avez commencé votre carrière comme assistante de réalisation sur des plateaux de télévision. Archive ou archifaux?
Bah, archifaux.
Ben oui, c'est faux.
Mais vous voyez à quoi on fait allusion ou pas? Parce qu'il y a une petite astuce. Assistante de réalisation, ça vous rappelle rien, Angoon?
Non.
Un sketch, du moins une caméra cachée.
Si, c'est vrai.
Pour une émission avec Patrick Sébastien sur France 2, émission de Stéphane Bern.
Oui, c'est ça.
C'était Patrick Sébastien l'invité de cette émission et vous jouiez le rôle d'une assistante maladroite qui se faisait hurler dessus par son boss.
Est-ce que je viens d'abord te rejoindre ici ou est-ce que je
En fait, moi, je t'accueille en haut. Hein, si tout est prévu, je t'accueille en haut.
Ouais.
Non, c'est pas ça du tout. Il y a la séquence avec Bruel.
Mais non, il n'y a pas la séquence avec Bruel.
Ça fait 3 semaines que je suis sur le coup pour Bruel. Et toi, t'arrives et tu foires tout.
Ça va, c'est pas grave.
Non, ça va pas.
Non, maintenant, tu te contentes de juste donner les
fiches
à Stéphane, ok?
C'est pas grave, c'est de la télé. Elle a essayé de bien faire en plus.
Il super sympa avec vous, Patrick Sébastien.
Oui, il a toujours été super gentil. Non, non, mais en plus de ça, c'était pour cette émission-là. J'étais grimée, j'avais
j'avais mis une perruque. Ah, vous ne pouvez pas vous reconnaître. Ouais, ouais.
Normalement, non.
Non.
Mais d'accord. En plus, j'avais, je sais pas, j'avais des énormes seins.
Ah, ben bah voilà.
Ah, c'est pour ça que Patrick Sébastien vous a défendu.
Non, mais c'était assez drôle à faire, mais voilà.
Là, c'était pour un sketch, mais des vrais méchants. Vous en avez rencontré à la télé, Angoun ?
Oui, enfin, les gens qui se sont avérés plus tard, mais pas en face de moi, c'est juste, c'est surtout après.
Ça, c'est mieux la télé. Grand sourire devant et puis derrière.
Voilà.
Ces petits coups de poignard.
Alors, à votre arrivée en France, vous avez en revanche rencontré un vrai gentil, c'est Florent Pagny.
Ah oui.
Et tout est parti d'une histoire d'électricien.
Attention, cette histoire, elle est très camoulox.
Alors, donc, j'avais la voisine, enfin, voilà.
Vous voyez, ça commence mal.
C'est camoulox. Ça. C'était le voisin de l'oncle de mon ex-voisine, est un électricien qui travaillait pour EDF, GDF. Et puis un jour, il avait dépanné Florent Pagny. Et puis, voilà, il a su que j'étais chanteuse. Et il avait utilisé ce moment-là pour me présenter à Florent.
C'est Florent Pagny qui vous avait présenté Éric Benzi.
Tout à fait.
Auteur-compositeur qui a notamment travaillé avec Céline Dion. Et lui va vous signer en 97 cet immense tube.
On refait la télé sur RTL. 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
De votre amour d'enfance.
Roberto Alagni a un petit extrait en avant-première de la comédie musicale dans laquelle vous allez retrouver cet incroyable ténor l'an prochain.
Pour nous raconter l'histoire du plus célèbre des bandits de Chicago, c'est Al Capone, joué par Roberto Alagni. Vous, vous serez Lily, la passion de sa vie. Ce sera votre première comédie musicale, Angoun ?
Oui, et la première aussi pour Roberto. C'est pas la première fois que je chante avec lui, donc je le trouve avec beaucoup de plaisir. Puis surtout, enfin, c'est un chanteur hors du commun, mais surtout, il est tellement gentil. Moi, je suis toujours frappée et touchée par ça. Et voilà, donc j'ai très très hâte pour ces 90 dates exceptionnelles, puisque voilà, pour avoir Roberto qui
vous êtes sûr
pas.
Qu'il n'y en aura que 90? Non, mais je dis ça parce que Notre-Dame de Paris, je pense qu'ils étaient partis pour 90 aussi au début, ils en ont fait 5000, hein, donc un petit peu de temps quand même.
5000, mais peut-être pas avec les mêmes.
Non, ça a changé entre temps. Voilà. Ah, bah les gens vieillissent, il y a eu des départs à la retraite. Enfin, vous voyez.
Alors, Al Capone, la comédie musicale, un spectacle RTL à découvrir à partir de janvier prochain aux Folies Bergères pour 90 représentations exceptionnelles.
À voir.
À voir.
On n'est pas sûr. Al Capone, c'est un escroc sans foi ni loi, un peu comme nous, Angoun.
Ah bon.
Vous allez pouvoir le constater avec nos rumeurs.
Ouf.
Le c'est ce qu'on dit.
Alors c'est ce qu'on dit sur vous dans les couloirs de la télé, Angoun, info ou intox.
Ah, c'est intéressant.
C'est à vous de nous le dire.
D'accord.
Hier soir, c'était la fin de la troisième saison de Masked Singer. La fin tout court pour vous, Angoun. On dit que vous ne remplirez pas pour une quatrième saison. C'est vrai?
Alors, à vrai dire, je ne sais même pas. Parce que, encore une fois, c'est toujours des mobilisations de notre temps. Et dans un temps normal, normalement, je ne suis pas là aussi longtemps en France. Donc à voir si...
Et vous auriez envie de continuer, Masked Singer, ou pas?
Ah, mais moi, j'adore l'émission. Donc, si le planning se concorde, oui, pourquoi pas.
Angoun, on rappelle votre rôle dans Masked Singer. C'est essayer de deviner quelle personnalité se cache sous d'incroyables costumes.
Oui.
Une mission vraiment pas évidente.
Je suis sur une feuille blanche actuellement, je n'ai aucune idée. Vous avez trouvé un truc, vous?
Il y a Angoun qui est complètement perdu, elle cherche d'ailleurs bah, comment.
Je suis perdu, ça fait 3 saisons, je suis perdu.
Caméléon, bravo encore pour cette belle presta. Qu'est-ce que vous en dites, Angoun?
En fait, ce que j'aime bien du caméléon...
Caméléon Jordanon.
Ah, ça ne peut pas être Jennifer.
Imovrini.
Je pense pas que ce soit Imouvrini dans le papillon, hein, Angoune.
Surtout qu'ils sont 10, je crois, dans le groupe Imouvrini. Donc rentrer à 10 dans un costume de papillon, ça paraît un peu chaud quand même.
J'en connais deux.
Oh, même à deux, ils auraient été un peu à l'étroit.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai, Angoune, que parfois on vous demande de raconter un peu n'importe quoi pour préserver le suspense, alors que vous vous doutez franchement de qui se cache sous le costume.
Non, c'est pas un peu n'importe quoi, mais c'est pas ça du tout. En fait, le truc, c'est que c'est une émission télé. On doit garder aussi une certaine suspense, ce qui est normal. Donc, c'est pas drôle que quand tout le monde se jette sur le même prénom. Moi, en plus de ça, je suis réellement perdue à chaque fois parce que, à part les chanteurs et les chanteuses dont je connais leur voix, les autres, je connais pas, finalement.
Vous nous promettez que vous n'en savez vraiment pas plus que nous devant notre télévision?
Ah non, là, je vous promets, mais je signe tout. Mais vraiment, je suis vraiment à la rue.
Moi, ce que je préfère avec cette émission, ce sont les papiers dans la presse le lendemain sur Internet avec des titres comme « Découvrez qui est le cochon de Massinger ». Quand vous recevez ça en alerte sur votre téléphone, vous dites « Faut que je sache vite qui est le cochon ».
Alors, Massinger, c'est une émission tournée plusieurs mois avant la diffusion, donc il faut garder le secret pendant longtemps. Et ça a parfois été difficile avec votre fille qui voulait en savoir plus.
Et oui, comme il y a plusieurs mois qui passent entre l'enregistrement et la diffusion, pendant plusieurs mois, elle vous harcèle pour essayer de savoir.
Un petit peu, et puis réellement, vous savez, là, cette saison-là, on avait tourné en juillet. Donc, entre-temps, je me rappelle, mais vraiment pas. Parfois, je me disais, oui, mais il y avait tel artiste. Mais c'était pas sur ce déguisement, non? Enfin, voilà. Donc, moi aussi, je redécouvre.
Dernière rumeur, Angoune, elle concerne cette série.
C'est le petit d'à côté?
Non.
Presque.
Presque. Le générique du Miel et les Abeilles.
Ah oui, Miel et les Abeilles.
Une série AB Productions. Et on dit que c'est grâce à cette série que vous avez appris à parler le français, Angoune.
Oui. En fait, les séries d'AB Prod, il y avait Hélène et les Garçons.
Ça a été votre premier contact. Vous regardez la télé en France, vous regardez ces séries pour apprendre à parler français. Hélène et les Garçons, Miel et les Abeilles.
Les vocabulaires ne changent pas pendant des saisons.
C'est simple.
C'est simple. Ils parlent pas mal. Enfin voilà, il y avait pas de langage familier, donc c'était suffisant pour moi pour assimiler la langue, quoi.
Quand vous êtes arrivé en France, vous ne parliez pas un mot de français, Angoune?
Non. Non, mais je fais toujours les mêmes erreurs avec le féminin et le masculin. Ça, il y a pas de logique chez, parce qu'en Indonésie, il y a pas d'article. En indonésien, il y a pas de temps, il y a pas de conjugaison. Tout se passe à présent. Il faut juste dire quand. Donc, il y a deux semaines, moi vouloir manger poulet. Et ce soir, moi aussi vouloir manger du poulet. D'accord. Donc voilà. Et puis, il n'y a pas de pluriel non plus. En fait, on répète le même mot deux fois pour dire que. Ou alors, il faut dire.
Attendez,
exactement,
vous voulez deux cafés, vous dites café-café?
Café-café.
D'accord.
Oui, ou
d'accord,
alors, on dit 17 cafés. Donc voilà, c'est une langue qui est quand même assez, assez étrange.
Ça paraît simple, mais nous, en indonésien, je ne suis pas sûre.
Ouais.
Oui, parce qu'après, les mots sont très longs. Ouais.
Vous parlez combien de langues, Angoune?
Je parle 3 langues, mais j'apprends l'allemand parce que mon mari est allemand.
Ça vous arrive jamais de vous mélanger les pinceaux entre toutes ces langues quand vous chantez?
Si, surtout quand la chanson existe en plusieurs langues. Et parfois, voilà, je me suis trouvée avec chantant le refrain en français alors qu'on est en Italie, et puis à la fin de finir en indonésien et personne ne comprend rien.
Bon, ce soir aussi, on va entendre plein de langues différentes à la télé. Ce sera la grande finale de l'Eurovision à Turin. Un groupe breton pour représenter la France cette année. Dans un instant, on accueille celle qui est à la fois leur patronne et un peu leur nounou. C'est Alexandra Red, la chef de la délégation française de l'Eurovision. A tout de suite.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. 11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Là, on se redresse. Hein. Le générique de l'Eurovision qui retentira pour la 66e fois ce soir sur toutes les télés européennes, dont France 2.
L'Eurovision, le plus gros show télé d'Europe avec son déluge de lumière, de paillettes, de tenues hautes en couleur. D'ailleurs, Angoune, je tenais à vous féliciter parce qu'à l'heure où la plupart des invités arrivent à la télé limite en short jogging, vous faites toujours un effort. Hein. Vous êtes toujours extrêmement glamour à la télévision.
Ah bien, merci. Mais pour l'Eurovision, en fait, je me rappelais que ma fille, le lendemain à l'école, quand on lui a posé une question, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Elle dit, elle chante. Et puis parfois, quand elle chante, on voit sa culotte. Parce qu'en fait, j'étais habillée en Jean-Paul Gaultier. Et à un moment donné, il y avait justement un énorme ventilateur. Donc avec, voilà, j'étais habillée en bustier, en fait. Oui. Voilà, donc,
ce qui a retenu de votre prestation. On y reviendra dans un instant. On va accueillir pour l'instant Alexandra Arret, la chef de la délégation française à l'Eurovision, qui vient de nous rejoindre. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Vous avez vu quelques tenues qui piquent, justement, déjà là, aux répétitions de l'Eurovision?
Oh, il y a des trucs sympas, je dois dire. Il ouais, y a de la paillette, il y a du look, il y a de l'extravagance. C'est oui. Vive l'Eurovision.
C'est l'Eurovision. Il y a un jour par an, on peut faire ça, c'est l'Eurovision.
Alors, merci d'être avec nous à quelques heures de la grande finale qui se déroulera ce soir, on le rappelle, à Turin. Vous serez donc aux côtés du groupe qui va représenter la France, un quatuor breton nommé Alvan et Aez.
C'est donc avec une chanson électro-braise, on va dire, en breton, que la France va être représentée ça, ce soir à l'Eurovision. Du coup, vous l'avez tellement entendu, Alexandra, j'imagine maintenant vous parlez couramment breton, non ?
Ah, totalement, bien sûr, je parle complètement breton.
Ils sont comment, vos poulains, avant cette grande finale, là, ce soir ? Confiants, inquiets, excités, zen, un peu tout ça à la fois ?
On était, tout est mélangé, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de cette envie de rendre fière la France. Ils sont prêts.
Bah, vaudrait mieux, c'est ce soir.
À toute façon, c'est là, donc c'est maintenant et c'est tout de suite, ça va.
Connaissant votre implication, je suis sûre que la plus stressée d'entre tous, c'est vous, Alexandra Arret.
En vrai, stressée, mais je ne peux pas l'être parce que je porte quand même cette délégation. Donc, il faut que je reste zen, il faut que je reste calme. Et si je suis zen, le reste de l'équipe sera zen. Donc, je vais pleurer dans les toilettes et après, je suis au top.
Surtout qu'il y a une petite pression particulière cette année.
Oui, soyons clairs, ça fait 45 ans cette année que la France n'a plus remporté l'Eurovision. La dernière fois, rappelez-vous, c'était en 1977, avec Marie Myriam.
Qui voudrait bien être libérée de ce titre. Hein.
Voilà, elle aimerait bien. L'an dernier, ça n'est pas passé loin, avec Barbara Pravi, qui a terminé deuxième. La victoire, c'est pour cette année, Alexandra Arret.
Je crois que là, on est concentré sur ce soir. On espère une très belle place. La victoire, on ne peut pas se dire, c'est sûr, on va gagner. Donc, quoi qu'il arrive, on a bossé pour être les meilleurs.
Vous l'avez entendu, tous les pronostiqueurs, les bookmakers, comme on dit, donnent évidemment gagnante l'Ukraine, manière pour toute l'Europe de soutenir ce pays. Oui. Vous pensez que ce scénario est plausible aussi ?
Oui, ce scénario est totalement plausible. L'Ukraine, en plus, a une très belle chanson. Donc oui, tout est possible. L'Ukraine peut gagner. Il y a la Suède aussi qui est extrêmement forte. Il y a les Italiens qui pourraient une deuxième fois regagner.
Avec... Arrêtez, on n'arrête pas de descendre. Elle est partie numéro 1 déjà, numéro 4.
Non. Tout est possible. Ce qu'on sait, c'est que nous, il fallait qu'on soit très exigeant, qu'on se prépare extrêmement bien. Et on est prêt.
Alexandra, depuis que vous avez pris la tête de cette Eurovision, vous avez remarqué que les candidats avaient la baraka. Une victoire à l'Eurovision Junior, une deuxième place pour Barbara Pravi. C'est quoi votre secret ? Vous les coachez un peu comme un entraîneur de foot ?
Alors, je ne saurais pas définir exactement comment je fais. Ce que je sais, c'est que ce que j'appelle la Dream Team, c'est-à-dire qu'on est dans une énergie, on est à fond, on a envie. Et je crois que l'envie fait partie aussi du succès. Donc, on travaille beaucoup et je dois dire que j'ai une super équipe.
Angoune, vous aussi, vous avez représenté la France à l'Eurovision. C'était à 10 ans tout pile, en 2012, oui, avec cette chanson. La chanson était top, la mise en scène aussi, il y avait du gymnaste, hein. Il y avait de la galipette sur scène, vous étiez splendide.
Il y avait des hommes.
Et pourtant, vous alliez finir en bas de tableau, Angoune, 22e sur 26. Franchement, on n'avait pas compris ce score, vous non plus d'ailleurs, je crois.
Moi non plus, mais en fait, même si j'étais très contente et j'ai adoré la chanson gagnante qui était Euphoria de Loreen de Suède, mais la numéro 2, qui était les mamies russes. Leur jeu sur scène, c'était elles faisaient la cuisine. Et donc, en fait, je me disais qu'à ce moment-là, c'était pas du tout la chanson qui était en jeu. C'était surtout peut-être la place de la France. Ça n'a rien à voir avec nous.
L'Eurovision, ça commence ce soir sur France 2. J'ai bien ça commence, parce qu'après, vous savez, il y a le décompte des points, donc on va aller jusqu'à dimanche soir, comme d'habitude. On continue d'en parler et d'en refaire la télé juste après ça.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard.
Encore un gros tube Angoune, cesse la pluie. C'était après la neige au Sahara. Vous étiez très branché météo à l'époque.
C'est ça. Je suis la Evelyne Delia de la chanson française.
Alexandra Red qui a ses entrées à France Télévisions. Vous n'avez pas une petite place à la météo pour Angoune?
Sur France 2 ou sur France 3? Non, on l'aime trop comme artiste, on la garde.
Blague à part, je vous verrais bien animer une émission de télévision, Angoune. Est-ce que c'est un exercice qui vous amuserait, ça, animer une émission de télé? Profitez-en, il y a Alexandra Red, c'est la patronne des jeux et divertissements de France Télévisions.
Oui, alors, donc c'est le moment où jamais.
C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais de signer. On la laisse pas partir.
Mince, j'ai oublié mon pilote à la maison. Il faut que je regarde point par point. Non, mais c'est. Je sais que là, depuis quelques années, je suis pour des expériences nouvelles. Donc justement, j'ai commencé à faire la fiction. J'ai fait en plus, j'ai fait des voix off avec Disney.
Fiction, très bien. France Télévisions, ils ont la fiction aussi. C'est bon. On y va.
J'ai fait une comédie musicale. Donc voilà. Donc je suis mais animé, je ne sais pas l'animation.
Animer une émission comme ça de variété, par exemple.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais why not? On n'est jamais
Alexandra
à l'abri d'une nouvelle chose.
Elle vient de recruter Alexandra Red. L'un de vos copains de Masked Singer, c'est Jarry. Oui. Jarry qui arrive bientôt sur France 2 avec une émission qui va s'appeler Le Big Show. Ça va ressembler à quoi cette émission de Jarry?
C'est plein d'émotions. C'est Jarry. C'est Jarry qui nous fait rire. C'est Jarry qui nous fait pleurer. C'est une émission qui est vraiment dédicacée aux spectateurs, aux téléspectateurs, puisqu'en fait, tout peut se passer. Il y a un public et ce public vont être vraiment les héros de cette émission. Donc il va se passer plein de choses avec eux, des surprises.
Pour avoir vu quelques bandes annonces, on était un peu dans l'esprit de. Alors, je ne sais pas si vous en souvenez tous d'une émission qui s'appelait N'oubliez pas votre brosse à dents, où le public était impliqué, à qui il pouvait arriver plein de choses.
Il y a beaucoup d'émissions où on peut apprendre quelques ingrédients. C'est un format qui a très très bien marché sur la BBC.
Ah, c'est un format importé donc.
Oui, c'est un format qui est importé. Et donc clairement, c'est le format que l'on a adapté en France et qui correspond vraiment à Jarry. Ce qui est génial avec Jarry, c'est que finalement, il se met à la place de son téléspectateur, son spectateur, et il leur fait vivre des expériences complètement dingues. Donc c'est vrai qu'on a autant ri que pleuré, et c'était assez chouette.
À découvrir dans les prochaines semaines.
À découvrir dans les prochaines semaines.
Attention, dans un instant, toutes les deux, vous allez vous affronter dans un quiz Eurovision.
Oula.
On vous a à peu près 2 minutes pour réviser les 65 éditions précédentes.
Ce sera juste après le rappel des titres. Merci d'avoir choisi RTL, il est midi.
Merci beaucoup, on est toujours avec Angoune et Alexandra Red, la chef de la délégation française à l'Eurovision. Un concours commenté il y a 20 ans déjà par Dev et Marc-Olivier Fogiel.
Moi je vote pour elle, Dev.
Mais je comprends.
Elle... On les efforts fournis sur scène parce que bouger autant avec autant de kilos, ça doit pas être simple. Maintenant on part en Allemagne, Dev.
On part en Allemagne, mais oui, on part en Allemagne. Elle est pas très belle, mais elle ne le sait pas.
Oh non, elle est non-voyante.
Oui, c'est pas grave, ça.
On est d'accord, Alexandra Red, qu'aujourd'hui, ce serait plus possible de dire des horreurs pareilles à l'Eurovision.
Non, ça sera un petit peu compliqué, on va dire. Mais Marco et Dev étaient Marc-Olivier Fogiel et Dev étaient franchement un super duo. Et c'est ça aussi qui fait que Marc-Olivier et Dev ont fait connaître l'Eurovision, et aujourd'hui Laurence et Stéphane de la même manière.
Alors en effet, au commentaire ce soir, on le rappelle, le duo gagnant, Stéphane Bern et Laurence Boccolini, Élodie Gossuin qui elle remettra les points de la France.
Et chantera peut-être, on verra.
Et chantera peut-être, on ne sait pas.
Elle prépare.
Et vocalise. C'est le chanteur Mika qui animera l'émission pour toute l'Europe.
Ce sera la 66e édition de l'Eurovision ce soir, et on accueille maintenant celui qui n'en a pas loupé une seule, même quand il n'était pas encore né. Il regardait c'est Germain Sasse. Bonjour Germain.
Bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour.
Vous allez donc soumettre nos deux invités à ce petit quiz Eurovision. Elles sont très inquiètes.
Attention.
Le principe est simple, Jade vous donne des infos mais aussi parfois des intox. Vous nous dites si c'est vrai ou faux, et puis Germain Sastre corrige votre copie.
Ok. Il est interdit de jouer d'un instrument en direct sur la scène de l'Eurovision. Vrai ou faux?
Vrai.
Vous avez raison Alexandra, effectivement. Aussi fou que ça puisse paraître, c'est vrai. Depuis 2000, il est strictement interdit de jouer d'un instrument en direct à l'Eurovision. À l'inverse, côté chanson, aucun playback complet autorisé. Alors je dis bien complet, car on peut imaginer qu'un chanteur soit en playback, pour peu qu'il ait des choristes en direct.
C'est vrai.
C'est ce qui s'était passé par exemple en 2000 avec le chanteur grec. Comme il dansait beaucoup pendant sa prestation, la Grèce avait préféré assurer la partie chantée avec des choristes.
Pourquoi, Alexandra Red, on n'a pas le droit de jouer d'un instrument en direct à l'Eurovision ?
Ça fait partie des règles. On va dire qu'il y a 41 pays, 26 pays qui vont jouer après. C'est une organisation qui est tellement lourde.
Ah, ce serait trop compliqué de faire les répétitions.
C'est impossible.
Avec le tambourin de l'Azerbaïdjan.
Non, je dois dire que ça serait. Je pense qu'on prendrait pas mal de notes fausses. Hein.
Autre info à vérifier, autre info Eurovision.
Un candidat s'est présenté 12 fois au concours avant de le remporter.
Pour moi, c'est faux.
De Et pour Angoune
non. Non. Je crois pas.
Vous avez raison de pas y croire, effectivement c'est faux. Ce n'était pas 12 fois, mais seulement 3. Alors c'est déjà beaucoup quand même, 3 fois. Ce candidat persévérant, c'était l'Autrichien Udo Jürgens. Il s'était présenté 3 ans d'affilée au concours en 64, 65 et 66 avant de remporter la victoire avec son titre Merci chérie.
Merci, merci chérie, merci.
Eh bien, merci à vous, monsieur. À mon avis, ils l'ont fait gagner pour être sûr qu'ils ne reviennent pas l'année d'après. Suite de ce quiz Eurovision.
Il est déjà arrivé que 4 pays finissent ex aequo à la première place. D'après vous, Angoune et Alexandra Red, vrai ou faux ?
Il y avait le moment où Amine a été ex aequo.
Oui, mais c'était 2. Ouais, c'était. Ouais. Non, 4 fois, ça m'étonnerait.
Et pourtant, c'est vrai. Ah, et ouais, c'était à Madrid. Alors, c'est un petit peu loin, c'était en 1969. Situation inédite, donc, à l'époque, pour les organisateurs. La France, l'Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni sont arrivés à la première place avec chacun 18 points. Wow. Comme c'était cette possibilité n'avait jamais été envisagée jusqu'à présent, il y avait donc eu 4 gagnants ex aequo et notamment la France avec Frida Bocara et son titre « Un jour un enfant ».
Sur Radio Lexomil. Frida la déconne. 69, c'était année névrotique pour elle.
Ouais, ouais. Et derrière 77 avec Marie-Myriam.
Exactement.
On va dire que c'est quasiment un ex aequo.
Alexandra a gagné, mais bien sûr. Mais...
Oh,
mais...
Alexandra, on va terminer avec un petit quiz que vous êtes sûre de remporter, parce que vous êtes la seule à répondre. Je m'adresse cette fois à la directrice des jeux et divertissements de France Télévisions. J'ai des infos. Vous me dites si elles sont vraies ou fausses.
Pardon.
Que signifie ce rire ? Que vous ne souhaitez pas répondre ?
Elle ne sait pas. Non, je trouve que le marketing est plutôt bien amené.
Et les réponses vont être encore mieux. On reprend votre vrai-faux spectaculaire avec Jean-Marc Généreux. C'est fini ?
C'est fini. Vrai. C'est fini.
Ça n'a pas rencontré son public, comme
ça
on dit.
Ça n'a pas rencontré son public. Je crois que, vous savez, sur France Télévisions, on essaye d'oser, de proposer, d'innover. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins bien. Le principal, je crois que c'est de tenter. On a des très belles personnes. Ça fait toujours beaucoup de peine d'arrêter une émission. Surtout qu'on a des producteurs et des animateurs qui s'investissent énormément dans nos créations. C'est une création.
Surtout que lui, il était parti de Danse avec les Stars, quand même, pour venir chez vous.
Non, il n'était pas... je crois que c'était pas... il n'était pas sur Danse à ce moment-là. Je crois que tout ça était en discussion. Jean-Marc Généreux est un animateur formidable. Je crois que c'était une vraie belle rencontre et on fera de belles choses ensemble plus tard.
Autre vrai-faux, un nouveau jeu produit par Thierry Ardisson sur une antenne du groupe France Télévisions qui mettra en compétition l'homme et la machine, la tête ou le net, nous a-t-il expliqué. Ça, c'était le concept.
Effectivement, on travaille avec Thierry et ses équipes autour d'un jeu. Voilà, mais on n'a pas signé encore ce projet, il est en développement.
Dernière info, alors là, j'ai une petite idée de la réponse déjà. Vous allez revenir de Turin ce soir avec le trophée de la victoire de l'Eurovision. Vrai ou faux ?
Vous savez quoi ? On se dit vrai comme on se dit merde.
Donc c'est poli quand même, je sais bien que mes questions, vous ne les aimez pas. Mais enfin...
le merde est très... Il est vulgarisé, on le sait ce qu'il veut dire. Non, ce que je veux dire, c'est que oui, allons chercher la victoire.
C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, à vous ainsi qu'à Alvan et Aes, qui vont donc représenter la France à l'Eurovision ce soir. On croise les doigts. Merci beaucoup, Alexandra Red.
Merci à vous et mobilisez-vous et regardez-nous, on est à fond.
Mais et oui. Merci à vous, Germain Sastre.
Merci à vous, merci à vous.
Angoune, on vous garde ?
Yes,
vous
n'avez
pas fini avec nous. Hein. On va parler maintenant de vos goûts télé.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
Le plateau télé de l'invité.
Et aujourd'hui, c'est le plateau télé d'Angoune. Vous êtes la patronne de la télécommande, Angoune. Vous nous dites ce que vous préférez regarder dans les programmes qu'on vous propose.
En milieu d'après-midi, par exemple, Angoune, vous préférez Affaires conclues sur France 2 ou Les Reines du Shopping de Christina Cordula sur M6.
Les Reines du Shopping.
Comme c'est étonnant.
Vous avez participé aux Reines du Shopping en novembre dernier.
Est-ce que vous avez regardé l'émission après, quand elle a été diffusée, pour voir ce que les autres disaient de vous ?
Oui.
Donc vous avez eu Frédéric Bell.
Oui. Oui, oui, elle me faisait peur.
Elle était assez partagée sur vos choix vestimentaires.
J'aime beaucoup la veste, des choses un peu 80 qu'on remonte, etc. J'aime beaucoup le petit top qu'elle a mis en dessous, en ton sur ton, c'est pas mal. Après, je trouve ça un peu massif et le pantalon ne va pas du tout avec. Et puis, elle n'aura jamais dû mettre ses chaussures roses qui vont avec rien.
Parenthèse, Frédéric, les chaussures qui vont avec rien dont vous parlez, c'est les chaussures perso d'Angoune. Voilà, on lui répétera pas.
Frédéric Bell, qui se permet de critiquer vos chaussures en Angoune, alors même qu'à l'inverse, elle vous avait valu des compliments d'une personnalité mondialement connue. J'ai lu que Barack Obama avait adoré vos chaussures.
C'est vrai.
Mais il a fait l'erreur du shopping aussi.
Alors, c'était différentes chaussures hein, en même temps.
C'était pas les roses.
C'était pas. Si, c'était du noir avec des pics roses.
Non, mais d'où on se retrouve à parler chaussures avec Barack Obama? Expliquez-nous.
Parce qu'en fait, je l'ai rencontré où il avait donné un discours et j'ai chanté pour lui ensuite parce que vous savez qu'il a grandi en Indonésie. Il a une demi-sœur indonésienne. Il a fait un petit peu sa scolarité aussi à Jakarta, ma ville natale. Et donc, en fait, il est venu en Indonésie pour la diaspora indonésienne. Et voilà.
Barack Obama, engagé dans de nombreuses causes humanitaires, tout comme vous, Angoune, quitte parfois d'ailleurs à vous mettre un peu en porte-à-faux avec la population de votre propre pays. Hein. Moi, je me souviens que vous étiez engagé, par exemple, pour l'abolition de la peine de mort en Indonésie.
Tout à fait. Et c'est, je suis toujours maintenant, en fait, je ne peux toujours pas comprendre que l'Indonésie ne peut pas donner cet exemple pour abolir la peine de mort parce que je trouve que l'État ne doit pas tuer.
Sauf que prendre cette position quand on s'appelle Angoune, qu'on est aussi connu que vous en Indonésie, c'est un peu risqué parce que la majeure partie de la population est plutôt pour que cette peine de mort continue.
J'étais triste d'apprendre qu'en fait, entre 70 jusqu'à 80% des Indonésiens étaient pour la peine de mort.
On vous en a voulu de cette prise de position ?
Énormément, oui, oui. Mes concerts ont été annulés, il y avait des boycotts sur moi. J'étais menacée, même physiquement, oui, oui, oui. Mais je trouve qu'en tant que citoyenne, en tant qu'Indonésienne, en tant que femme, je ne peux pas, le fait que j'ai une voix, je ne peux pas ne pas aborder ce genre de sujet, même si c'est à mes dépens, oui.
Même si ça doit vous couper d'une partie de votre public.
Oui, mais finalement, je n'ai pas besoin de ce public-là. Si ça me fait une espèce de, je ne sais pas, une espèce de tri, oui, je préfère être écoutée ou être comprise par ceux qui me ressemblent, oui.
On va retourner à votre plateau télé, Angoune. Alors, cette fois-ci, on va parler de la nouvelle télé, les plateformes de streaming type Netflix, ah, oui. Amazon Prime. Vous les regardez beaucoup ?
Oui, oui, malheureusement.
Plus que la bonne vieille télé ou pas?
Exactement, ouais. Mais maintenant on a trop le choix. Hein.
Bah là, on a deux choix à vous proposer.
Alors, deux propositions de programmes disponibles sur les plateformes. Le premier sur Netflix, donc, un documentaire consacré à un chanteur dont vous avez assuré les premières parties.
Johnny.
En 2006, oui, c'est Johnny Hallyday. Grand moment ça d'ailleurs, non?
Oui, parce qu'en fait, ça faisait partie des cadeaux encore que la vie m'a donné. J'étais tellement contente. Je lui dis, voilà, merci beaucoup, Johnny. Parce que même mon dentiste était fier de moi. Ma concierge, enfin tout le monde, quoi.
Ça doit être compliqué de faire les premières parties de Johnny en sens où le public vient pour Johnny, quoi, clairement.
C'est vrai, mais le public de Johnny est tellement large. Et puis, vous savez, ça, c'était en 2006. J'avais un corps sublime.
Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué. Heureusement que ce n'est que la radio,
c'est
vrai.
Non, mais c'est pas ça. C'était en plein été. Donc, je mettais des shorts tout le temps. Et là, le public de motard était content.
Et après, quand Johnny arrivait, il disait « Non, rendez-nous en Angoune, c'est bon ».
Je dois dire que l'effet des shorts... Ouais.
Donc, on vous propose soit ce documentaire sur Johnny, Johnny par Johnny sur Netflix, sinon on a le nouveau James Bond sur MyCanal, Mourir peut attendre. Alors, vous faites quoi ?
Je n'ai pas de canal, donc on va regarder Johnny.
Quand vous regardez des James Bond en Goon, vous n'avez jamais le regret d'avoir refusé un rôle de James Bond Girl.
Vous allez dire ça,
c'est sûr.
Oui, mais c'était Pierce Brosnan. Hein. C'était pas assez bien pour vous.
C'est pas ça.
Non,
mais cette histoire est folle. En Goon, ici présente, a refusé de tourner dans un James Bond, c'est exact.
Oui, c'est vrai. Il faut mettre dans le contexte. J'avais 25 ans, je voulais juste chanter. Voilà, et j'ai commencé ma tournée aux États-Unis, puis donc j'avais fait une émission qui était Rosie O'Donnell, qui était l'équivalent de Ellen DeGeneres,
un talk show
de l'après-midi. Et le lendemain, il y avait un des producteurs de James Bond qui disait, voilà, est-ce qu'elle veut pas venir faire un essai caméra pour faire James Bond?
Et là, elle dit, non, elle veut pas.
Donc, on m'a proposé, on m'a donné donc le script. Et finalement, dans le script, ça tient sur une feuille. Je passe une nuit folle d'amour avec James. Et puis après, je me fais tuer le lendemain. Donc, bon, non. Parce que non, alors là, c'est pas...
C'est pour que ça fasse 0,07 secondes, c'est pas la peine.
Exactement. Donc non, ça va pas être mémorable. Et puis surtout, il y avait... En fait, on m'a parlé de cette malédiction des Bond Girls qui, paraît-il, existe réellement.
Ah bah, elles sont tuées dans les films, mais dans la vraie vie, ça va, non?
Non.
Ah bon?
Paraît-il,
non,
en fait, après, leur carrière stagne un peu. Donc, ce qui était le cas pour pas mal d'actrices. Enfin, on m'a cité beaucoup.
Allez, on va maintenant parler de quelque chose qui agace beaucoup de téléspectateurs, c'est la publicité. Ah. Ça vous énerve aussi, Angoune, la pub à la télé ou pas?
C'est peut-être pour ça aussi qu'on se tourne vers les streaming, mais en même temps, les pubs à la télé, ça permet aussi d'avoir des émissions.
Quoi. Et de vous payer dans Massinger, par exemple.
Par exemple.
Parce que sinon... Alors, cette publicité.
Oui, on va tout vous dire de cette publicité à la télévision avec le décodeur Télé-Loisirs. Bonjour Benjamin Elfer.
Bonjour Jade, bonjour à tous.
Bonjour Benjamin.
On entend souvent dire, il y a de plus en plus de pubs à la télé, mais en fait, ce n'est pas vrai. C'est très réglementé, c'est ça?
Alors effectivement, c'est extrêmement encadré. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les chaînes de télévision ne font pas du tout ce qu'elles veulent à ce sujet. Alors ce qu'il faut principalement savoir, c'est que l'ARCOM, l'ex-CSA, limite la diffusion de publicité à 12 minutes maximum par heure sur les chaînes de la TNT. Et puis souvenez-vous aussi que depuis janvier 2009, la publicité est interdite entre 20h et 6h du matin sur l'ensemble des chaînes du service public. Et puis ce qu'on se demande aussi souvent, c'est est-ce que ça coûte cher de diffuser une publicité à la télé? Eh bien, sachez que sur une grande chaîne nationale, il faudra débourser entre 3 et 6 000 euros pour 30 secondes de publicité diffusée dans la journée. Mais les tarifs augmentent fortement. Pour les prime time ou pour une publicité diffusée au milieu d'une émission à forte audience, là, la facture peut monter à 100 000 euros les 30 secondes. Et enfin, lors d'événements majeurs, là, les chiffres s'envolent complètement. Pour vous donner un petit exemple, lors de la finale de la Coupe du Monde en 2018, TF1 avait facturé 280 000 euros les 30 secondes durant la mi-temps du match opposant la France à la Croatie.
Alors, est-ce que tout le monde peut faire de la pub à la télé?
Tout à fait. Vous, moi, tout particulier peut diffuser une publicité à la télévision. Mais attention, pour cela, il faut remplir plusieurs conditions. Déjà, votre spot publicitaire doit être validé par l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui va s'assurer notamment que votre spot publicitaire respecte plusieurs principes, comme celui de la dignité humaine ou de la non-discrimination. Ensuite, pour diffuser une publicité, vous ne devez pas exercer vous-même un métier qui vous interdit de faire de la publicité, comme c'est le cas par exemple pour les médecins. Et puis enfin, vous ne devez évidemment pas faire la publicité de produits dont la promotion est interdite, comme c'est le cas pour l'alcool, les médicaments soumis à ordonnance ou encore les armes à feu. Non,
merci beaucoup Benjamin Elfer.
Merci
Angoune,
Benjamin.
Est-ce que vous avez de la chance au jeu de hasard?
Elle
est très inquiète.
Oui, je suis inquiète là.
Vous avez raison d'être inquiète.
Ah,
ça va être la tombola des questions dans un instant.
Aïe, aïe, aïe.
Et tirer des questions au hasard comme ça.
D'accord.
C'est la dernière partie, soyez forte.
Ok.
À tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussard. Jade, Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
L'interview télé.
Jade, c'est le moment pour nous de souffler dans cette émission.
Bon, on l'a bien mérité.
Angoune, maintenant, ce n'est plus nous qui allons vous poser des questions, mais des personnalités.
Ah.
Alors, en fait, ce sont des questions qu'on a enregistrées un peu comme ça au hasard dans des émissions de télé.
Oui.
Donc, elles ne vous étaient pas destinées.
Oui.
Et vous allez quand même devoir y répondre.
D'accord.
C'est alors, quoi? C'est conceptuel. Vous aurez à chaque fois le choix entre deux personnalités.
D'accord.
Première question, Axel Red ou Angèle?
Oh, Axel Red.
Quelle relation entretiens-tu avec les réseaux sociaux?
Déjà une relation intense, hein, parce que vous avez un nombre impressionnant de fans sur les réseaux sociaux, Angoune. Presque 8 millions d'abonnés.
Je ne sais pas, c'est encore irréel, tout ça. C'est pas...
Évidemment, il n'y a pas que des fans français, là, c'est le monde entier, non?
Oui, oui, il y a beaucoup d'Indonésiens aussi, parce qu'ils ils passent beaucoup de temps sur leur téléphone, comme beaucoup d'Asiatiques. Mais,
vous aussi, du coup, ça veut dire que vous passez vos journées à poster pour nourrir ces 8 millions d'abonnés?
Non. Mais je passe ma journée, oui, au téléphone pour, justement, pour répondre à des emails, mais je ne passe pas énormément de temps sur les réseaux sociaux. Avant, j'avais une équipe pour ça. Maintenant, je gère un petit peu plus seul, surtout pour Instagram et Twitter.
Question de celui qui vous a fait faire votre première télé en France, Jacques Martin,
ah,
ou alors de Catherine Sellac qui animait Thé ou Café sur France 2.
Je les aime les deux.
Eh oui.
Jacques Martin.
Quelle chose négative dirais-tu sur toi ?
Peut-être je suis un petit peu trop gentille.
Mais dans ce métier, être trop gentil, ouais, ça peut vous desservir.
Ça peut, oui. Et puis surtout à la télé aussi, quand par exemple sur Massinger, quand Kev parfois me pique.
Kev Adams.
Ouais. Oui, Kev Adams. Mmh. Mais je les laisse, voilà. J'aime pas trop répondre à ce genre de choses. Et puis de toute façon, c'est pas grave. Ce n'est que de la télé.
On va terminer cette interview télé avec une question de Michel Denisot. Ou alors de celle qui a été une très jolie abeille dans Mask Singer. C'est Joyce Jonathan.
Ah, Joyce !
Vous choisissez
qui ? Je voudrais Joyce.
Joyce, s'il vous plaît.
Ce que tu détestes le plus à Paris ?
C'est juste le fait que les gens ne sont pas appréciatifs de à quel point elle est belle, cette ville. Voilà, la saleté de Paris, les gens qui se plaignent. Peut-être ce que je n'aime pas à Paris, ce sont des Parisiens. Et puis, ils se plaignent tout le temps.
Les Français sont connus pour être des râleurs dans le monde entier. C'est quelque chose qui vous a frappé quand vous êtes arrivé en France ?
Quand je suis arrivée à Paris. Parce qu'en fait, j'ai une maison en Normandie. Mais tout va bien, les gens se plaignent pas là-bas, alors qu'on n'est pas très loin.
C'est
uniquement parisien. Je sais pas, même tout le monde, on dirait ils sont vraiment en soupape permanence et puis ils sont en pression permanence.
Angoun, merci beaucoup d'avoir refait la télé avec
nous. Merci à vous.
On vous retrouve dès janvier prochain sur la scène des Folies Bergères pour un voyage aux États-Unis. Cette fois, vous nous emmènerez à Chicago pour faire revivre avec Roberto Alagna et Bruno Pelletier la légende d'Al Capone, une comédie musicale événement avec RTL pour laquelle vous pouvez déjà réserver vos places.
Merci beaucoup Angoun.
Merci à vous deux.
Merci Jade.
Ce fut un plaisir.
On refait la télé, revient samedi prochain à 11h30 avec, on peut le dire, un ami de la maison.
Il a sa carte de fidélité.
Alors lui,
hein.
On va lui mettre un petit coup de tampon supplémentaire. C'est Thierry Lhermitte qui sera avec nous. Et en attendant, on garde le contact, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, où vous retrouverez toutes nos vidéos. Et puis, bien sûr, l'appli RTL pour le replay de cette émission. Ophélie Meunier arrive dans 2 minutes sur RTL avec son journal inattendu. Très, très bon week-end. Ciao, ciao.
Salut.